Balado 96.9. Inspiration Inc. Présenté par la Banque Nationale.
Bonjour à tous et bienvenue à Inspiration Inc. Notre invité aujourd'hui, vous le connaissez probablement. Il fait partie de l'émission Dans l'œil du dragon. Il est un dragon lui-même. C'est un gars qui a démocratisé, je trouve, l'entrepreneuriat ici même au Québec. Et je pense que c'est un bon contact à toi, mon cher Philippe Richard Bertrand.
En fait, on se croise souvent parce que les bureaux de sa nouvelle entreprise, sa nouvelle aventure, MMI, sont dans les mêmes bureaux que où je suis. Donc moi, c'est sûr que je suis technologiquement sa carrière depuis longtemps. C'est un gars qui a vu neiger, qui a eu plusieurs entreprises à succès bien connues du Québec.
Et c'est un gars qui est jeune quand même, il est dans la mi-trentaine.
La mi-trentaine. Et aujourd'hui, c'est un gars qui a énormément d'investissements dans des compagnies technologiques. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est un jeune qui croit énormément à la relève, qui encourage les jeunes à se lancer. Puis on le sait, au Québec, on a un problème de création d'entrepreneurs. Puis c'est avec des jeunes comme ça qui réussissent, qui sont pas gênés de dire qu'ils réussissent, qu'on va faire économiquement un Québec très fort dans le Canada.
Il vient aujourd'hui nous présenter sa nouvelle entreprise MPMI. Voici Martin-Luc Archambault.
Inspiration Inc. Portrait d'entreprise.
Bonjour Martin-Luc.
Salut, ça va?
Oui, très très bien, merci. J'aimerais que tu nous expliques exactement c'est quoi l'application MPMI.
MPMI, ce que ça fait, c'est que ça synchronise un nombre illimité de téléphones ensemble pour créer un gros haut-parleur. Donc, ça synchronise la musique sur tous les téléphones quand on n'a pas de speaker. Puis, ce qu'on a rajouté récemment, c'est qu'on synchronise également tous les Bluetooth speakers ensemble. Tu sais, souvent, t'as des jeunes qui vont se regrouper au parc, puis là, ils amènent soit leur téléphone ou ils amènent tous leurs petits Bluetooth speakers. Mais là, ils vont se dire, ah, ben le mien est plus fort que le tien, fait qu'on va jouer la musique sur le mien. Parce qu'ils ne pouvaient pas les synchroniser tous ensemble avant. Mais maintenant, avec MPMI, on peut tout synchroniser, que ce soit des speakers ou des téléphones.
Est-ce que ça prend absolument du Wi-Fi?
Ça prend une connexion Internet parce que de toute façon, tu streams la musique de YouTube, de SoundCloud,
ou de
Spotify
maintenant
ou de ta bibliothèque. Donc, pour ça, je veux dire, c'est un peu comme si tu streamais de Spotify, à part que tout le monde le fait en même temps pour amplifier le son.
Ça t'est venu comment, cette idée-là? T'sais, pourquoi, Mané, tu t'es levé et t'as dit « Hey, je trouve que la musique n'est pas assez forte. »
oui, mais l'idée m'est venue, en fait, puis ça arrive, je pense que c'est arrivé à plusieurs personnes de cette situation-là, mais j'étais à Whistler, en fait, chez une amie qui venait de déménager dans son nouvel appartement là-bas, puis tous ses trucs étaient dans des boîtes, tu sais, elle avait pas ses speakers d'organiser, etc. Puis j'arrive avec la bouteille de champagne, puis je disais, hey, on va célébrer, mais là, on voulait de la musique. Fait que là, on était 4-5 personnes, puis tu sais, j'ai fait comme la plupart des gens font, j'ai pris mon téléphone, puis je l'ai mis dans une tasse. Puis, tu sais, ça fait un peu plus de son, mais c'est quand même pas assez fort. Fait que là, on avait tout Spotify, puis on s'est dit, hey, on va essayer quelque chose, on va tout peser play en même temps sur notre téléphone, sur la même tune, voir si ça joue en synchronisation. Puis, c'est impossible à faire, là, ça joue jamais synchronisé. Voilà. Fait que là, c'est là qu'il m'est venu l'idée. Comment est-ce qu'on peut synchroniser la musique ensemble? Puis, pour revenir à ta question, est-ce que je veux changer ou disrupt les haut-parleurs? Je pense qu'inévitablement, les haut-parleurs Bluetooth vont diminuer dans le marché dans les prochaines années parce que les speakers sur les téléphones deviennent de mieux en mieux. C'est un petit peu comme les caméras digitales. À moins que tu sois un photographe professionnel, la plupart des gens maintenant prennent des photos avec leur téléphone. Puis je pense que d'ici 5 ans, la plupart des gens vont jouer de la musique de leur speaker de téléphone. C'est déjà le cas, hein? De la musique sur les speakers de iPhone, ça joue plus que sur n'importe quel autre speaker au monde.
Ah ouais.
En termes de consommation de temps.
De consommation de temps.
OK, ben oui.
Fait que les gens écoutent déjà de la musique sur leur speaker de téléphone.
Mais moi, je trouve l'idée brillante parce que, comme homme d'affaires, puis je voyage pas mal, tu sais, il faut que tu amènes ton laptop, là, fallait que tu amènes ta tablette, fallait que tu amènes ton lecteur pour lire des livres. Veux pas, les appareils intelligents s'en viennent de plus en plus intelligents puis essaient de regrouper tout ça. Alors, le fait que maintenant, tu peux synchroniser des speakers. Et puis moi, pour avoir essayé l'app avec des chums, c'est vraiment le fun.
Inspiration Inc. Si je veux faire pareil, je fais comment?
MPMI, vous avez réussi à lever 10 millions de dollars US pour une entreprise qui dit qu'il n'y a pas de business model encore.
Immédiat.
Mais
en
vous
fait, on
vivez,
a été clair.
Vous vivez ça comment?
On a été clair avec nos investisseurs. On leur a dit, écoutez, là, si on veut faire de l'argent avec ce produit-là, premièrement, il faut qu'il y ait des millions et des millions de personnes qui l'utilisent. Si on veut des millions et des millions de personnes qui l'utilisent, il faut créer un produit qui marche. Parce que déjà, là, synchroniser les téléphones ensemble, c'est très, très, très difficile. Puis je dirais qu'à ce moment, ça marche à peu près à 95 % du temps. Quand on a commencé puis on a levé le financement, une fois sur deux, c'était pas synchronisé. Fait que là, on s'améliore. Il faut créer un produit qui est exceptionnel, qui est malade, que quand les gens l'utilisent, ils fassent « wow ». À partir de ce moment-là, le produit est viral par défaut. Mm. Ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas utiliser AmpMe tout seul. Tu vas utiliser Spotify tout seul pour écouter ta musique. Quand tu es avec tes chums, tu vas utiliser AmpMe parce que tout le monde va l'utiliser et la musique va être plus forte. Fait qu'inévitablement, si ça marche, tu vas inviter tes amis. Alors là, normalement, on devrait être capable de grossir juste par le bouche à oreille, si on veut. Puis c'est là qu'une entreprise commence à valoir de l'argent. Si on réussit à faire ça, puis on a des millions d'utilisateurs, ben là, tout à coup, on peut décider, ah, ben OK, on va peut-être mettre de la pub ou on va peut-être charger pour des fonctions premium. Mais ce qu'on a été clair, c'est que dans la prochaine année, on fera rien de ça parce que tout ce qu'on veut, c'est créer un produit exceptionnel. Si vous pensez à Facebook, ça a pris combien de temps avant qu'ils mettent des pubs dans Facebook? Même chose avec Instagram, ça a pris des années. Ils se sont concentrés sur le produit, produit.
Quand il y a une histoire comme ça qui sort du lot au Québec, là, de lever de l'argent, de dire on projette de faire des revenus un jour, c'est incroyable.
Est-ce que c'est dû peut-être au fait que tu es un excellent vendeur, dans le sens que tu es capable probablement de convaincre n'importe qui d'acheter ton produit? T'sais?
Je vends bien mon produit parce que premièrement, je suis passionné. Ouais. Hein, parce que sinon, on ne peut pas vendre quelque chose par lequel on n'est pas passionné. Mais la chose la plus importante, c'est qu'un investisseur, en tout cas au niveau de notre entreprise, va tout le temps investir dans la personne et dans le team. En premier lieu.
Ah, puis t'as un background
le
aussi
produit,
d'affaires.
À la limite, là, ils s'en foutent. Ils vont dire « Ah ouais, c'est cool, c'est dans la musique, ça synchronise les téléphones ensemble. Qu'est-ce que ça va devenir? Je suis pas trop sûr, mais cet entrepreneur-là, j'y fais confiance. » Même si ça, ça marche pas, il va trouver une twist pour que ça marche, puis il arrêtera pas jusqu'à temps que ça marche.
Écoute, la plupart des gens t'ont connu dans l'émission L'œil du dragon, mais on aimerait ça connaître un peu ton parcours d'entrepreneur.
Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est premièrement, c'est une carrière, là, c'est un parcours d'une vie, tu sais. Puis moi, je dirais que j'ai commencé très, très tôt. Là. J'ai commencé au primaire. Je vendais des gadgets dans le cours d'école. Je vendais des pétards à mèche. N'importe quoi que je pouvais trouver qui était le fun. Je l'achetais soit au dépanneur ou dans des magasins spécialisés. Par exemple, j'achetais des trucs à 25 sous puis j'y revendais 50 sous dans le cours d'école. Fait que déjà, je faisais un petit peu d'argent puis c'était le fun, ça allait bien. Puis à un moment donné, tout à coup, il y a d'autres gens qui ont commencé à en vendre. T'sais, la même affaire. Fait que là, je pouvais plus vendre ça à 50 sous. Fallait que je vende ça à 40 sous. Fait que, l'offre et la demande, t'apprends ça assez jeune. Puis je pense que c'est assez important. Puis à un moment donné, j'ai appris que, j'ai pas le droit de vendre des trucs à l'école. Le directeur, il m'a mis en comment on dit ça?
En retenue.
Suspendu. J'ai été suspendu une journée ou deux. Dans le fond, c'est un peu, ça m'a marqué ça parce que à la place que l'école primaire fasse la promotion d'entrepreneuriat puis dise, OK, ben, tu sais, peut-être que t'avais pas le droit de faire ça, mais on va t'encadrer puis on va t'aider puis c'est intéressant. Non, t'as pas le droit de vendre des trucs à l'école, c'est fini, that's all, étudie. Fait que ça, c'était une de mes premières expériences. C'était assez intéressant. Pendant que j'étais au secondaire, je me suis beaucoup intéressé au day trading, c'est-à-dire transiger des actions à la bourse, mais en transiger plusieurs dans une journée, tu sais, très, très rapidement. Puis j'ai commencé à faire de l'argent, à faire du day trading, si on veut, pendant que j'étais au secondaire. Puis tout à coup, mes amis m'ont dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, Martin-Luc? Je comprends pas. » Puis ils ont commencé à acheter les mêmes stocks que moi, puis à me suivre, puis un peu apprendre de ce que je faisais.
Mais toi, tu as appris ça de où? Ça te vient où, cette fibre entrepreneur?
J'ai tout le temps appris de moi-même. Je pense que tous les gens dans la vie ont des passions. Tu apprends de ta passion, puis tu commences peut-être à en faire une business. Puis moi, c'est tout le temps ce que j'ai fait. J'avais une passion pour le day trading. J'ai fait un site de day trading qui s'appelait CanadianDayTraders.com où je parlais du day trading. Je faisais, je parlais des stocks que j'achetais, etc. Puis tu sais, ça a bien été.
Mais est-ce que tu te considères privilégié dans la mesure où est-ce que ta famille, est-ce que c'était des gens d'affaires? Est-ce que tu avais des sous en banque puis tes parents te donnaient un coup de main pour partir, pour démarrer tous tes projets?
En fait, le coup de main qu'ils m'ont donné, c'est qu'ils m'ont acheté un ordinateur quelques livres de programmation. Fait que ça, c'est un peu le coup de main ça m'a vraiment allumé. Ils m'ont connecté à l'Internet. Ouais. En fait, avant l'Internet, j'avais des BBS chez moi. Ils m'ont laissé tout le temps jouer puis faire ce que je voulais sur l'ordinateur. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Ouais, mais écoute, tu fais ça au secondaire. T'as continué avec cette compagnie-là.
Il faut se dire une chose. Dans le web, dans le domaine domaine de la technologie, c'est très, très rare des compagnies qui durent extrêmement longtemps. T'sais, on a des Facebook, des Google, OK, c'est bien beau, ça dure, mais il y a beaucoup de compagnies web qui vont partir, puis en dedans de quelques années, dans les 5 premières années, ils vont se faire acheter, ils vont devenir quelque chose d'autre complètement, ou ils vont mourir. Puis d'ailleurs, c'est très, très important pour l'entrepreneuriat. C'est correct de laisser des entreprises mourir, puis c'est correct de se planter. Je me suis sûrement planté, je dirais au moins 10-15 fois plus que les succès que j'ai eus. Dans chaque business, tu essaies plein d'affaires, tu te plantes. Ce qui est important, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais il faut être correct avec le fait de se planter. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de ça, puis qui se lancent peut-être pas en affaires à cause de ça. C'est pour ça que je dis, le plus jeune que tu commences, le plus que tu vas apprendre, puis le plus que tu risques d'avoir du succès dans le futur. Mais il y a une affaire que je veux clarifier. On parle de grand entrepreneur, pas grand entrepreneur. Pour moi, ça change pas grand-chose. T'sais, un entrepreneur peut être grand, avoir une petite PME, puis employer 2-3 personnes. Parce que c'est ça qui stimule l'économie. La majorité des entreprises qui stimulent l'économie, en tout cas, surtout dans les régions, c'est des PME. Puis on a besoin de ça. Alors, puis c'est important parce qu'au Dragon, souvent, on envoie des entreprises ou des gens qui viennent nous voir. Ils ont des belles petites business, mais c'est pas nécessairement des business qui peuvent être financés par des anges investisseurs ou des venture capitalists, si on veut. Mais c'est pas grave, c'est des belles business. Puis pour moi, c'est des grands entrepreneurs pareils.
Tu as eu des business dans l'édition, publicité en ligne, la spéculation boursière, gestion de projet, marketing, moteur de domaine. Écoute, tu as touché un peu à tout. Est-ce que tu conseilles aux gens, justement, de se disperser ou de focusser sur un angle ou un domaine?
Ben, je pense que si on regarde tout ce que tu as nommé, il y a tout le temps quelque chose de commun, c'est la technologie puis le web. Mais je pense que c'est important d'y aller avec sa passion puis d'avoir un fil commun. Tu as beaucoup plus de chances de succès. Puis la même chose en investissement. Quand on regarde les anges financiers, normalement, un ange financier va investir, par exemple, dans 10 business. Il y en a une qui va être un home run. Il y en a 2-3 que tu vas faire un peu d'argent. Puis le reste, c'est un write-off. Tu vas perdre ton argent, ou si tu en retrouves un petit peu, tu es content. Mais c'est important donc que l'ange financier investisse dans ce qu'il connaît, donc qu'il peut amener un peu plus de valeur pour augmenter ses chances un petit peu.
Tu parles des anges Québec, je pense que c'est important juste de le positionner. Tu as été membre du conseil d'administration d'Ange Québec durant 5 ans. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ange Québec, en fait, c'est un regroupement d'anges investisseurs de partout au Québec. Puis avant que cet organisme-là soit créé, il y avait plein de gens qui investissaient dans des startups ou dans des entreprises en démarrage, mais ces gens-là ne se parlaient pas entre eux. Puis donc, le réseau Ange Québec, si on veut, a créé un réseau entre ces personnes-là. Puis maintenant, il doit avoir 200 membres dans plein de domaines d'expertise qui investissent ensemble.
C'est un peu comme les dragons, finalement, à plus grande échelle.
À 200 personnes. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, il va y avoir des dossiers qui vont être présentés, par exemple, en médical ou en manufacturing.
Ça
ou
d'autres.
Ouais. Puis moi, je peux apprendre parce qu'un entrepreneur, ça veut tout le temps apprendre.
Qu'est-ce que tu penses de la situation entrepreneuriale du Québec?
Je pense que ça s'améliore beaucoup. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de Ange Québec qui existait. Il n'y avait pas de Real Ventures ou d'accélérateur de start-up. Il n'y avait pas de co-sharing space comme WeWork. Alors, ça s'améliore beaucoup. On commence à se développer en tant que marché. On n'est pas rendu.
On n'est pas Silicon Valley. Là.
On n'est vraiment pas là, puis on est loin de l'être, puis c'est correct. Il faut l'accepter, puis il ne faut pas essayer de se dire qu'on est poche. Au contraire, on s'améliore, puis on commence. T'sais, je vais te donner un exemple comme AmpMe. C'est une business qui, normalement, ne se ferait pas financer au Québec. On a été, en tout cas au Québec, au Canada, je pense qu'on a bien fait ça. Puis normalement, ce genre de ronde de financement-là, tu vois ça en Californie. Mm-hmm. Fait que c'est très, très bien que je pense qu'on a pu faire ça au Québec. Puis ça montre que le Québec a de l'appétit, puis veut peut-être créer le prochain Instagram ou le prochain Facebook. Mais si on va un peu plus loin, puis on se dit, hey, tout à coup, on est en train de créer le prochain Facebook à Montréal. Mais là, le Facebook, là, ils ont besoin d'engager 10-15 000 ingénieurs. On est-tu capable de faire ça à Montréal? On n'a pas nécessairement les ressources. Ouais. On va peut-être les avoir dans 10, 15, 20 ans. C'est un processus qui est très, très long.
En regardant ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment?
Je pense que une des choses que je ferais différemment, puis je l'ai appris, c'est une des erreurs que j'ai appris, mais un entrepreneur travaille beaucoup, 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 a ses passions, puis il faut qu'il fasse très attention à avoir ce que j'appelle un work-life balance.
Mm-hmm. Équilibre.
Ouais, parce que dans la vie, il n'y a pas juste la business, hein. Il y a les amis, il y a ta blonde.
Puis la famille.
Puis il y a tes enfants, puis ta famille. Fait que si tu mets 95% de ton énergie dans ta business, ben il se passe quoi avec le reste? Puis ça, c'est très... En tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure. Puis maintenant, j'essaie de vraiment mieux le faire. j'essaie, par exemple, de déconnecter complètement de mon téléphone quand je suis avec mes enfants.
Évidemment, on va se servir du fait que tu es un dragon, je te pose des questions rafales, puis tu réponds le plus rapidement possible ou le plus honnêtement possible.
Okay.
Première chose que tu regardes quand quelqu'un vient te faire une présentation?
Je sais pas c'est quoi la première chose que je regarde, mais je suis bon avec le gut feeling. Puis normalement, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit un entrepreneur ou quelqu'un que je rencontre en entrevue, en dans 2 minutes, je sais s'il va avoir un fit. Fait que je pense que la première chose que je regarde, c'est y a-tu un fit entre moi et cette personne-là?
L'énergie, probablement.
L'énergie, c'est super important.
La chose à ne pas faire quand on te fait une présentation?
Il faut être humble. C'est bien d'être confiant, mais faut pas arriver comme si on savait tout. Il faut qu'on soit ouvert au feedback. Je pense que c'est important. Il faut être bien préparé. J'aime pas ça, quelqu'un qui est pas préparé.
Mm-hmm.
Faut que tu connaisses tes chiffres. Faut que tu connaisses ton marché. Puis faut que tu sois capable de me vendre ta passion.
Est-ce qu'il y a une industrie dans laquelle tu investirais jamais?
Ouais, je pense qu'il faut jamais dire jamais. Par exemple, il faut tout le temps qu'il y ait une connexion avec ce que je connais. Je vais donner un exemple. Frank & Oak. Frank & Oak vendent des vêtements, right?
Ouais.
Mais vendent des vêtements en ligne. Puis ça, je pense que c'est très important. Puis c'est un subscription model. Puis en tout cas, au début, c'était un subscription model. Puis c'est quelque chose que je connaissais très bien. Puis je pouvais les aider. Fait que la vente de vêtements, je connaissais absolument pas ça. Puis si tu me dirais, hey, Martin, t'aurais-tu investi dans de la vente de vêtements? J'aurais tout le temps dit non.
Mm-hmm.
Mais là, c'est de la vente de vêtements en ligne avec un super brand. Puis encore plus important, des entrepreneurs exceptionnels. Quand j'ai investi, ça s'appelait pas Frank & Oak, ça s'appelait Moda Suite. J'étais pas sûr que je comprenais c'était quoi le produit. Ils vendaient des complets sur mesure en ligne. Là, j'étais comme, ouais, ça marchera jamais, ça. Ils t'envoyaient un tape, il fallait que tu te mesures toi-même. Mais les entrepreneurs, ils étaient smart, puis je savais qu'ils allaient trouver une twist. Puis ils l'ont fait. Le produit, c'est important, mais l'entrepreneur est encore plus important.
Si tu avais des jeunes entrepreneurs devant toi, ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais?
Essayez de vous lancer en affaires, puis ayez pas peur de vous planter. Soyez pas nerveux. Montrez-nous votre passion. Hein? Vous êtes là pour vous faire du fun. Surtout, soyez bien préparés également parce que les questions vont arriver puis il faut que vous sachiez y répondre. Un autre conseil que j'aurais à donner aux entrepreneurs, c'est essayez pas de tout faire tout seul. Vous devez être très, très bon à vous entourer de gens qui vous complètent, qui sont plus smart que vous dans des domaines que vous ne connaissez pas. Moi, quelqu'un qui arrive puis qui me présente son projet puis qui est seul, c'est très, très, très rare que je vais investir. Ça me prend tout le temps 1 ou 2 cofondateurs pour montrer une équipe qui se complète.
Martin-Luc Archambault, ça a été un plaisir de te recevoir. On va évidemment télécharger ton application M.E. et on va te suivre aussi dans Les Dragons à Radio-Canada.
Hey, ça me fait plaisir. C'est cool de voir tant de motivation pour l'entrepreneuriat. Ça me rend heureux.
Bon succès pour la suite.
All right, salut.
Inspiration Inc. Les enseignements.
Philippe Richard, qu'est-ce que tu as retenu de cet entretien avec Martin-Luc Archambault?
En fait, j'ai retenu 3 choses. La capacité de cet homme-là d'être capable de penser en dehors de la boîte, le thinking out of the box. Ça, là, ça veut dire que des fois, en entreprise, t'es rendu collé trop proche de l'arbre.
T'as plus de recul.
Cette capacité-là de monter à 30 000 pieds d'altitude, quand tu montes, tu vois les choses totalement différentes.
Ouais.
Puis Martin et Luc, là, c'est ça qu'il est capable de faire. De dire, hey, vous avez un problème là-dedans, j'ai des idées. Sa deuxième capacité, c'est d'être rassembleur. La capacité d'un entrepreneur à monter une équipe du tonnerre excessivement rapidement. Faut pas se le cacher, des fois en start-up, on n'est pas capable de donner énormément de salaire au début. Alors, cette capacité-là de te monter quand même une équipe solide de seniors, de gens dévoués, donc d'être rassembleur. Et la dernière chose que ça m'a vraiment frappé, c'est que lui, il dit qu'il investit dans des humains.
Ouais.
Il dit, moi, j'investis dans un homme ou dans une femme, puis après, je regarde c'est quoi qu'elle fait.
Mm-hmm.
Alors ça m'a vraiment frappé parce que lui, il base ses investissements sur le fit qu'il peut avoir ou pas avec une personne. Le côté humain, ça vient de me frapper.
Mm-hmm.
Là, comment c'est rendu important.
Philippe Richard, merci beaucoup.
Hey, merci. J'invite les auditeurs à aller sur le site de c'estquoi.com dans la section Inspiration Inc. pour aller écouter les autres entrepreneurs qu'on a passés dans cette balado.
Ouais, et si jamais ça vous tente de nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse balado969@c'estquoi.com. Merci et à bientôt.
Merci.
D'autres épisodes avec des passionnés, très bientôt sur c'estquoi.com. Inspiration Inc. Une présentation de Banque Nationale. Réalisons vos idées. Balado 96.9.